Gaston Leroux roule ta bille chez les bohémiens. Chapitre 1er, le livre des ancêtres. 1. Où il est question pour la première fois de la pieuvre. Jean de Santierne gravit l'escalier qui montait à l'appartement de Rouletabille avec une telle rapidité que, malgré sa jeunesse et l'habitude des sports, il s'arrêta un instant, essoufflé, devant la porte. Le célèbre reporter du journal L'Époque habitait depuis 2 ans cette vieille maison du faubourg Poissonnière, où il était venu se réfugier après la mort de sa femme, survenue dans des circonstances tragiques que nous n'avons pas à rappeler ici. Fuyant toute mondanité, ne fréquentant que de rares amis, au premier rang desquels il fallait compter Santierne. Il s'était ainsi rapproché du grand quotidien auquel il semblait avoir donné tout son temps dans le dessein d'oublier. Jean sonna. On mit quelque temps à venir lui ouvrir la porte. Enfin, un domestique à figure camuse, toujours sombre et taciturne, que Rouletabille avait ramené des Balkans et qui ne connaissait que sa consigne, déclara que monsieur n'était pas là. « Allons donc, on l'a jailli !» protesta Santierne, très énervé. « Je sais qu'il est chez lui. Laisse-moi passer. »« Monsieur n'y est pour personne !» repartit le domestique. Mais déjà le jeune homme l'avait bousculé et, d'autorité, ouvrait la porte du studio de Rouletabille. Il n'y avait pas plus tôt pénétré qu'il poussait une sourde exclamation et prononçait de vagues excuses. Une femme était là, dans une pièce qui semblait avoir été mise au pillage. Des livres avaient été jetés sur les tapis, par piles, des dossiers gisaient, entr'ouverts, les tiroirs du bureau semblaient avoir été forcés, et cependant, Santierne paraissait moins étonné de ce singulier désordre que d'y rencontrer la femme qui semblait y présider. Elle n'était point belle, mais, comme on dit, elle était pire. Très jeune encore, dans les 30 ans, un visage étrange, sous des cheveux coupés droit sur le front, barrant celui-ci à hauteur des yeux, qu'elle clignait à la façon des myopes, et dont la lueur inquiétante glissait sur les gens et sur les choses avec une apparente indifférence. Vêtue d'un tailleur gris clair, d'une simplicité parfaite, mais d'une élégance sûre. Que faisait-elle quand il était entré si brusquement? Il lui eût été bien difficile de le dire, mais, assurément, il l'avait gênée. Elle avait jeté sur lui un regard hostile, et s'était détournée aussitôt, glissant derrière le bureau et disparaissant par une porte qui faisait communiquer le studio avec l'appartement intime de Rouletabille. Si vite qu'elle se fût effacée, Santierne n'en avait pas moins reconnu une silhouette, dont la vision l'avait comme clouée sur place. « La pieuvre » murmura-t-il haletant. « La pieuvre, ici ? Oh ! Cela explique bien des choses !» Quand il eut surmonté son émotion, il ressortit dans le vestibule et appela Olajaï. « Comment le studio se trouve-t-il dans cet état ? Ton maître déménage donc ?»« Monsieur vient tout de suite !» répondit l'autre sans plus, et il le laissa là. Presque aussitôt, Rouletabille le rejoignit dans le bureau, lui tendait une main un peu fiévreuse, s'assurait lui-même de la fermeture des portes et lui demandait affectueusement ce qui l'amenait. Tant de tranquillité n'était qu'apparente. Santierne ne pouvait s'y tromper. « Parlons d'abord de toi, lui dit-il. Que se passe-t-il ici? Je te demande pardon d'avoir forcé ta porte. Mon cher Jean, je vais te dire une chose que je voulais cacher à tout le monde et pour laquelle je te demande, jusqu'à nouvel ordre, le plus grand secret. Il se passe tout simplement ceci, que Rouletabille vient d'être cambriolé.
Toi ? Cambriolé ?
Moi.
J'espère que tu sais déjà par qui et pourquoi.
Je ne sais rien, et je n'y comprends rien.
Rouletabille,
fit Jean à voix basse, quand j'ai pénétré ici tout à l'heure, je me suis trouvé en face d'une femme que ma présence a semblé bien gênée.
Oublie que tu as vu cette femme,
fit le reporter d'une voix nette en regardant Santierne bien en face.
Il le faut. Personne ne doit avoir vu cette femme chez moi.
Et moi, je regrette surtout de l'y avoir rencontrée,
réplique Jean d'une voix sourde.
Pourquoi le regrettes-tu ?
Pour toi, Madame de Mérens, ici. Tu sais comment on l'appelait, cette femme ?
Oui, répondit le journaliste avec un sourire qui déplut à Jean. Elle m'a raconté ses malheurs.
Tu veux dire les malheurs des autres ? Nous l'appelons la pieuvre. Je suis assez ton ami, j'espère, pour te dire.
Rouletabille, méfie-toi. Partout où cette femme s'est montrée, il y a eu des désastres. Elle n'a laissé derrière elle que le désespoir et la ruine. À Vienne, à Pétersbourg, où toutes les portes lui étaient ouvertes, car elle avait des appuis officiels, elle passait pour être de la haute police. Depuis la guerre, elle avait disparu. Certains prétendaient même qu'elle avait été fusillée dans un fossé de Schlusselbourg.
Et je la retrouve ici, chez toi, comme chez elle, dans ton intimité.
Écoute, Rouletabille, je savais que depuis quelques mois tu avais une intrigue, mais j'étais loin de me douter. Et cependant, maintenant que tu viens de m'apprendre qu'il t'est arrivé un malheur, je ne m'étonne plus de rien.
À toi, personnellement, elle ne t'a jamais rien fait.
Non, parce que du temps que j'étais attaché d'ambassade, l'ambassadeur m'avait dit « prenez garde ». Du reste, ses manières m'avaient toujours inquiété. Je n'aimais pas ses façons garçonnières, son regard, où il y avait trop d'intelligence dans le moment qu'elle semblait vous séduire par la plus innocente familiarité. Méfie-toi, te dis-je, et ne me raconte pas qu'elle te sert par sa connaissance du monde, de tous les mondes. C'est elle qui t'aura.
En tout cas, tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas ?
Dis-moi que tu ne l'aimes pas.
Moi ? Répliqua Rouletabille.
Rassure-toi, je la déteste.
Et elle ?
Elle aussi.
Vous en êtes là ?
Oui, mais parlons d'autre chose. Dis-moi ce qui t'amène.
Dis-moi d'abord comment tu as été cambriolé.
C'est honteux à raconter.
Voilà. Tu sais que j'ai l'habitude de rester tard au journal. Je ne rentre guère ici avant 2 heures du matin. Hier soir, par hasard, je me suis couché à 10 heures. Je me sentais fatigué, là, inexplicablement. Je me suis même demandé depuis si l'on ne m'avait pas fait prendre, sans que je m'en aperçoive, quelques narcotiques.
Où as-tu dîné et avec qui ?
Calme-toi, pas avec elle, et ici.
Es-tu sûr de ton domestique ?
En principe, je ne suis sûr de personne, mais raisonnablement, j'ai dû repousser l'idée du narcotique. En admettant que mon domestique fût d'accord avec mes cambrioleurs, ils avaient tous intérêt à me voir partir le plus tôt possible et non à me retenir, même endormi chez moi. Non, ils ont été aussi étonnés de m'y trouver que moi de les y voir. Je m'étais donc couché. Il pouvait être 00h30, 1h du matin, quand j'ouvris les yeux. Un bruit singulier, un grincement répété, comme d'une lime sur une serrure, me sortit de mon apesantissement. Et tout à coup, il y eut un fort craquement, et puis plus rien. Il me semblait que l'on venait de forcer un meuble avec une pince, monseigneur. Ce n'était peut-être qu'une illusion, le bruit naturel d'une boiserie qui éclate. Je me soulevai, assez flasque. Tu sais si je suis courageux. Eh bien, la nuit, je me suis trouvé souvent inquiet comme un enfant devant les bruits inexplicables que font les choses dans les ténèbres. Oppressé, la sueur aux tempes, j'allongeai la main jusqu'au tiroir de ma table de nuit. Il était vide de mon revolver. Je me rappelais l'avoir laissé dans une case de mon bureau. Justement, les bruits venaient du studio. Ils avaient repris, le grincement recommençait. Cela se précisait, et devant cette précision, je reconquis soudain tout mon sang-froid. Je me glissai hors du lit, j'entr'ouvris avec précaution la porte de ma chambre. Il y avait un ray de lumière qui ourlait le bas de la porte du studio donnant sur le vestibule. Je me souvins d'une matraque dans le porte-parapluie. Je m'en armai, et allai coller mon oreille contre la porte du bureau. J'entendis des voix qui chuchotaient, des mots dans une langue que je ne comprenais pas. Mon domestique couchait à l'étage supérieur. J'étais seul contre une bande qui n'hésiterait certainement pas à me faire un mauvais parti. Je résolus de sortir de l'appartement, s'il en était temps encore, et d'aller prévenir le concierge. Mais, au même moment, la porte du studio s'ouvrit. Il y eut quelques exclamations vite étouffées, et trois hommes me sautèrent à la gorge. « En un instant, » continua Rouletabille, « je fus terrassé, bâillonné, transporté dans ma chambre, ligoté avec mes draps, réduit à l'impuissance. Ils avaient éteint naturellement toute lumière, mais je les sentais grouiller encore autour de moi. À quelle besogne obscure se livraient-ils? Tout à coup, le timbre de la porte d'entrée retentit et ils disparurent comme une volée de vilains oiseaux nocturnes. On donnait de forts coups de poing dans la porte, et j'entendais la grosse voix de mon camarade, la Candeur, qui me criait « C'est moi! Ouvre-moi, Rouletabille! On a besoin de toi au journal! On ne peut plus te téléphoner! Pourquoi as-tu décroché l'appareil? Le patron est furieux !» De mon côté, je faisais des efforts inutiles pour me libérer, pour me faire entendre. La Candeur redescendit en jurant. À la réflexion, je ne fus pas fâché qu'il ne m'eût point vu dans cet état. Moi, Rouletabille, m'être laissé surprendre ainsi, j'étais honteux, vexé. Voilà le sentiment qui dominait maintenant en moi. C'est mon domestique qui m'a délivré ce matin. Je l'ai menacé du bagne s'il parlait jamais. Et quant à toi, je compte bien que tu ne voudras pas me déshonorer. « Mais enfin, que signifie une pareille agression ?» questionna Jean, qui oubliait ses propres préoccupations au récit de cette singulière aventure. « Ah, voilà !» fit Rouletabille en montrant d'un geste large son studio bouleversé. « J'ai cherché. On est venu certainement ici pour me voler des documents. Mais lesquels ? Après inventaire, il ne m'en manque aucun. » J'ai pu croire un instant qu'il y avait un lien entre l'événement de cette nuit et mon article d'avant-hier sur les scandales de la Société du Bengale. Mais le dossier est au complet. Mystère. Tout de même, tu dois avoir une idée. Ces gens, tu as pu les entrevoir. Oui, une seconde, mais ils ont fait l'obscurité tout de suite, tu penses? Et comment étaient-ils faits, tes voleurs? Et comme des voleurs. Trop comme des voleurs. Des mines affreuses. Trop. Trop de vêtements sales. Trop d'horribles casquettes. Par où sont-ils passés? Par le balcon. L'appartement d'à côté est vide. Ils y avaient pénétré par l'escalier de service. Ici, ils ont scié un volet, fait sauter un carreau. C'est simple. Et tu ne vas pas avertir la police? Non. Et tu ne soupçonnes personne? Si. Qui? La police. Il se peut qu'elle cherche quelque chose qu'elle ne trouvera pas ici. J'en aurai bientôt le cœur net. Jean, sombre, réfléchissait. Rouletabille, je te le répète, méfie-toi de la pieuvre. Ne m'as-tu pas dit, exprima le reporter, ironique, qu'elle était de la police?
On me l'a affirmé.
Eh bien, mais, fit l'autre en allumant sa pipe, c'est par elle que je saurai si c'est la police qui a fait le coup.
Jean se leva.
Allons, soupira-t-il, je vois qu'il n'y a plus rien à te dire. Adieu. Et il ajouta, non sans une intention un peu sournoise, « Je ne veux pas vous gêner davantage. » Rouletabille ne lui répondit pas, tout d'abord, mais il prit sa canne et son chapeau. « Je t'accompagne, » fit-il, « car je vois qu'il te répugne de me parler d'Odette sous le toit qui abrite Madame de Mérens. »
« Comment sais-tu que je viens te parler d'Odette ?»
Rouletabille haussa les épaules, le poussa dans l'escalier.
« Tu as reçu des nouvelles de Camargue, de mauvaises nouvelles. Hubert ne quitte plus Odette, se fait plus pressant, presque menaçant.
« Qui t'a si bien renseigné ?» questionne Jean stupéfait. « Qui t'a dit ?»«
Toi ?
Tout cela est écrit là. » Rouletabille lui passe un doigt sur le front.
« Que penses-tu d'Hubert ?»«
Je le crois capable de tout, mais je t'avouerai que ce n'est pas lui qui m'inquiète pour toi. »«
As-tu parlé à Calista ?»«
Non, et je suis venu pour que tu lui parles, toi. »«
Charmant !» s'exclama le reporter, qui semblait vouloir cacher sous un air goguenard le désagrément que lui apportait une pareille commission.
« Charmant. J'ai failli être étranglé cette nuit. On va m'arracher les yeux ce soir. »
2. Calista. Je ne sais vraiment pas comment annoncer à Calista mon mariage avec Odette. Rouletabille se répétait cette phrase de son ami Jean, tandis que Jean, au piano, jouait du Beethoven et que dans le boudoir, Calista, les jambes nues sous l'envolée des voiles noires lamées d'or, dansait. Rouletabille n'était pas seul à regarder danser Calista. Il y avait encore l'ourson et le perroquet. La scène était étrange. Une demi-obscurité l'enveloppait. Jean, lui, était tout à fait dans le noir. On l'entendait, on ne le voyait pas. On entendait aussi sonner les bracelets de Calista quand le rythme s'accentuait. Les trois spectateurs, Rouletabille, l'ourson et le perroquet, étaient sages comme les images d'ombres chinoises que leur profil dessinait sur le mur. Ils étaient éclairés par une lampe basse à feu rouge dans sa gaine de papier de soie, posée sur un plateau d'argent, où des cartes avaient été rageusement dispersées, avec, au milieu d'elle, la reine de cœur arrachée, la femme blonde en morceaux. Naturellement, Calista était brune, mais on ne voyait encore que ses jambes éblouissantes qui passaient comme des flammes courant sur le tapis. Tout à coup, les jambes s'éteignirent sous les voiles, la femme s'écroula, et dans la volute farouche de la chevelure dénouée, une face de beauté et de sauvage douleur apparut.
« Elle n'a jamais dansé aussi tragiquement, » pensait Rouletabille. « On dirait qu'elle prévoit la catastrophe. Nous allons passer des moments difficiles. »
Mais, par un miracle de cette physionomie mobile, l'image du désespoir qui se traînait sous la lampe s'effaça presque instantanément sous le plus espiègle et le plus passionné sourire. Et puis Calista se retrouva debout, se montrant tour à tour fière et douce, amoureuse et sage, faible ou rieuse. Finalement, elle éclata de rire. Sa danse avait été d'un démon, d'une grâce, d'une muse, d'un ange, d'un lutin. Et Rouletabille se rappelait la première fois qu'il l'avait vue danser. Il y avait 2 ans de cela. C'était en Camargue, aux environs des Sainte-Marie-de-la-Mer, où il était allé chasser, avec son ami Jean, les oiseaux de passage. Elle était sortie, en dansant, d'une roulotte de bohémiens,
échoués entre deux tamaris, et ils avaient été arrêtés par la volupté biblique de cette scène de plein air. Silencieuse, accroupie autour de la danseuse, la tribu extatique et sale regardait la belle fille au geste divin, tandis qu'un mâle d'une sombre beauté, assis près d'un feu qui s'éteignait, faisait entendre sur sa balalaïka un rythme millénaire. Ils avaient été vus, et tout s'était arrêté, et ils avaient été chassés par le silence hostile de tous. Et puis, le lendemain, comme ils déjeunaient en bande, une bande de joyeux vivants, il faut bien le dire, dans un petit hôtel champêtre du voisinage, à deux pas d'une rivière, ils avaient vu apparaître, au milieu de leur jeu civilisé, quelqu'un au piano jouait un chimie, une naïade brune poursuivie par un faune. Dans la jeune fille demi-nue, ils avaient reconnu la bohémienne de la veille, et dans le faune, l'homme à la balalaïka. L'homme terrible avait déjà agrippé la pauvre enfant qui se débattait en criant et en le mordant, et déjà l'homme l'emportait, quand Jean et Rouletabille, suivis de leurs amis, s'étaient précipités. Et le bohémien avait dû céder au nombre. Il s'était éloigné lentement, tournant de temps en temps la tête vers celle qui le poursuivait de ses imprécations. Celle-ci, haletante, s'était mise sous la protection de Jean. « Je m'appelle Calista. Cet homme a nom Andrea. C'est un gitan, mais non de ma tribu. Mon père étant mort, il cherche à m'emmener. Il ne met rien. » Une heure plus tard, pour éviter de nouveaux incidents, Jean emportait Calista dans son auto, au milieu des acclamations de ses amis. Et voilà comment Calista et Jean s'étaient aimés, et pourquoi Calista l'aimait encore. Elle s'était apparemment civilisée, avec une ardeur de néophyte à laquelle on révèle les joies d'une religion aux douceurs insoupçonnées. Bien que son cœur fût resté sauvage, elle s'était vite transformée en une étrange parisienne, élégante et ultramoderne. On eût dit qu'elle voulait faire oublier ses origines. Pour Jean seul, et pour Rouletabille qui ne comptait pas, elle dansait parfois, dans le particulier, des danses gitanes. Et encore, nous avons vu que Jean mettait du Beethoven autour. Donc, maintenant, Calista riait. Mais son rire faisait frissonner Rouletabille. Le perroquet et l'ourson aussi se mirent à rire. « Cette maison des grimaces m'épouvante !» se dit le reporter, en essayant de secouer la torpeur maladive qui l'envahissait. « Ah, ce sont encore ces parfums d'Arménie. Elle a beau faire, ça tiendra toujours du bazar chez elle. » Jean avait fermé le piano et essayé d'expliquer à Calista la nécessité où il était de la quitter de bonne heure ce soir. « Rouletabille te tiendra compagnie. » Elle ne lui répondit pas. Elle tendit à son baiser un front de marbre. Il se sauva, balbutiant des excuses. Rouletabille aurait donné cher pour le suivre. Calista s'était assise sur le divan. Elle ne bougeait pas. Elle se tenait raide comme une reine d'Égypte. Sur son bras nu, on voyait briller un énorme anneau d'esclavage. Il fallait se décider. Rouletabille, tout ça. Il se trouvait ridicule, odieux. Il maudissait Jean qu'il avait chargé d'une pareille corvée. Ce fut elle, cependant, qui parla la première. « Il veut me quitter, n'est-ce pas ?» Rouletabille toussa encore. Il trouvait cette toux éloquente. Si Calista, qui n'était pas dénuée d'intelligence, voulait faire un tout petit effort, elle comprendrait. Et de fait, elle avait compris. Et sans plus tarder, elle le lui prouva. Elle vint se planter devant le jeune homme, éleva son bras nu à la hauteur de son visage, et, lui montrant le cercle d'or où l'on avait tracé un signe mystérieux fait de la rencontre et du mélange de deux religions, la croix et le croissant, le tout en forme de poignard. « Rouletabille, » dit-elle, « répète à Jean ceci. Les filles gitanes qui portent cet anneau au bras, et ce signe sur cet anneau, sont de vraies filles de bohème, gardant la fidélité à l'amour et le souvenir de l'injure. Et maintenant va-t'en. N'ajoute plus rien. Non, non, va-t'en. Va, te dis-je, va rejoindre ton ami. » Et ils furent trois à le chasser, car l'ourson et le perroquet s'étaient joints à Calista, et le perroquet n'était pas le moins redoutable. Trois, Olajaï. Rouletabille, après avoir feuilleté l'indicateur qui traînait sur son bureau, alla à l'une des grandes cartes routières de l'Europe qui, sur les murs, entre les bois de la bibliothèque, étalaient leur puzzle bariolé. Dans le studio, tout était rentré dans l'ordre. Les livres avaient retrouvé leur place, la vitre du balcon avait été remise. Toute trace du cambriolage de la veille avait disparu, et jamais le maître du logis n'avait paru aussi calme. D'un geste précis, son doigt posé sur ce mot « Avignon » avait suivi un instant une route descendante. Après quoi, Rouletabille était revenu au téléphone. « Monsieur Santière n'est pas encore rentré chez lui ?»« Non. Je l'attends ici jusqu'à 1 heure. J'ai besoin de le voir de toute urgence. Dans 20 minutes, s'il n'est pas arrivé, je vous téléphonerai pour vous donner mes dernières instructions. » Et il raccrocha l'appareil, sans nervosité. Il avait endossé le complet à carreaux et coiffé la casquette, qui lui faisait un uniforme célèbre dans le monde entier. Une valise soigneusement revêtue de sa gaine de toile grise annonçait un prochain voyage. Il sortit d'un tiroir un Browning dont il vérifia l'armement, l'enferma dans sa poche, s'assit et ferma les yeux. Pour qui connaissait bien Rouletabille, son entrain habituel, sa naturelle exubérance, sous laquelle il cachait souvent les plus sérieuses inquiétudes, son besoin perpétuel de bouger, de faire quelque chose, une pareille attitude en disait long. Jamais Rouletabille ne travaillait autant que lorsqu'il ne faisait rien. Jamais la nature n'a d'apesantissement plus redoutable qu'à l'heure où elle se dispose à tout déchirer. Pour quelle aventure nouvelle Rouletabille se recueillait-il? Il devait la prévoir de taille pour accumuler tant de sang-froid. Quels événements graves entrevoyait-il derrière le rideau de ses paupières closes? Soudain, il ouvrit les yeux, il se leva. Il avait reconnu le pas de Jean. Celui-ci se précipita avec des cris joyeux. « J'enterre ce soir ma vie de garçon, je t'invite. Tu sais que ça s'est admirablement passé avec Calista. Ma parole, je ne sais pas ce que tu as depuis quelque temps, tu prends tout au tragique. C'est Madame de Mérens qui te donne des idées noires. Depuis que tu fréquentes cette femme, on ne te reconnaît plus. Pour en revenir à Calista, mon vieux, elle a été parfaite. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai été parfait. Tu sais combien je t'ai aimé. Je ne t'oublierai jamais. Mais la vie, la nécessité de me marier, de me ranger... Enfin, un bon boniment et de bons titres de rente. Elle a accepté de l'argent. Je lui ai laissé le paquet sur la cheminée. J'espère que ça la consolera. Il y est peut-être encore sur la cheminée, ton argent. Eh bien, mon cher, je n'irai pas y voir. Je pourrais encore la rencontrer, et je ne veux plus penser qu'à Odette, à Mademoiselle Odette de Lavardan, qui sera bientôt Madame Jean de Santierne. Tu ne risqueras pas de rencontrer Calista chez elle, déclara froidement Rouletabille, car elle n'y est plus. Où est-elle donc? À Lavardan. Jean bondit. Qu'est-ce que tu dis? Si elle n'est pas à Lavardan, elle n'en est pas loin. Elle est partie pour les Saintes-Maries de la mer. Calista aux Saintes-Maries? Tu en es sûr? Un coup de téléphone à sa femme de chambre m'a tout appris.
Et quand as-tu appris cela ?
Il y a 20 minutes.
Et tu me dis cela avec un calme qui m'épouvante.
Jean aperçut alors la valise, le complet à carreaux.
Tu pars en voyage ? Tu me lâches dans un moment pareil ?
Ma foi, oui, je te laisse enterrer ta vie de garçon.
Oh, tais-toi, me diras-tu où tu vas ?
Je n'ai pas de secret pour toi. Je vais à Lavardan.
Rouletabille !
Jean se jetait dans ses bras et l'embrassait, mais Rouletabille déjà se dégageait.
Ne nous attendrissons pas.
Quoi que nous fassions, nous aurons sur elle un retard de 24 heures. Puissions-nous arriver à temps ?
Espérons-le, soupira Jean.
À tout prix, il faut éviter le scandale.
Le scandale ? Releva Rouletabille avec un inquiétant sourire.
Ah, mon cher, si tu l'avais entendu me cracher cette phrase au visage.
Va dire à ton ami que les filles de Bohême qui portent ce signe.
Oui, oui, tu as raison. Il faut tout craindre. Je deviens fou.
Ce n'est pas le moment, si tu veux sauver Odette.
Sauver Odette, nous en sommes là.
Il faut, d'abord, ne pas rater le train de 2h10. Nous serons à Avignon cette nuit à 2h51. Là, nous sauterons dans une auto et nous arriverons aux premières lueurs du jour à Lavardan. Et maintenant, va faire ta valise. Rendez-vous à la gare. J'ai encore 1 heure devant moi. J'ai le temps de passer à la préfecture.
Quoi faire à la préfecture ?
Pour ton histoire de l'autre nuit ?
Peut-être.
À propos, je n'ai plus de domestique.
Tu l'as fichu à la porte ?
Tu as bien fait. Sa figure ne m'est jamais revenue à ce garçon-là.
Je ne l'ai pas fichu à la porte. Hier soir, en rentrant, j'ai trouvé les clés de l'appartement chez le concierge et ce mot sur mon bureau. Lis.
Mais il écrit très bien le français, ton sauvage.
Monsieur m'excusera de quitter si brusquement son service. Il se peut que je ne revoie jamais monsieur, mais je n'oublierai jamais les bontés que monsieur a eues pour moi. Oh la jaillie !
Encore un nom à coucher dehors.
Oui, il signe « Oh la jaillie », reprit Rouletabille d'une voix sourde. Et sais-tu ce que cela signifie dans le langage de son pays, ce mot-là ?
Cela veut dire « malédiction ».
C'est impressionnant ! Exprima Santierne qui déjà s'élançait vers l'escalier.
Rouletabille l'arrêta d'un geste.
« Oui, fit-il, c'est impressionnant. Surtout quand on sait qu'Olajaï a pris le train, lui aussi, hier soir, pour...
Pour ?
Pour les Saintes-Maries de la mer. »
Santierne regardait maintenant Rouletabille avec des yeux énormes.
« Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? » balbutia-t-il. « Cela ne peut pas être une simple coïncidence. Qu'est-ce que cela cache ?»«
Je ne sais pas ce que cela cache, » prononça le reporter sans quitter son calme imperturbable.
« Mais tout cela nous révèle au moins, mon cher Jean, que nous sommes tous emportés là-bas par une force inconnue et fatale et que nous nous débattons dans un obscur tourbillon où tes affaires et les miennes se mêlent bien étrangement.
Olajaï ! Cet Olajaï est un balkanique bohémien, et je ne crois pas qu'il soit allé aux Sainte-Marie uniquement pour prier Sainte-Sarah. »
C'est sur cette sombre parole que les jeunes gens se séparèrent. 3 quarts d'heure plus tard, sur les quais de la gare de Lyon, Rouletabille voyait arriver Jean, plus pâle et plus angoissé encore qu'il ne l'avait quitté. Il tenait une lettre dans sa main.
« Ah, mon cher, lis, tout se précipite !»
C'était quelques mots d'Odette.
« Venez vite, Jean, venez vite, j'ai peur pour vous, j'ai peur pour moi. Si c'était vrai que vous ne m'aimiez pas, que vous en aimez une autre, ah, cet Hubert me fait peur, et papa aussi a peur. » « Ah, venez, je ne peux pas vous en dire davantage. »
« Le misérable !» grondait Jean qui avait peine à se contenir. « Il n'y a pas de doute, il lui a parlé de Calista. » Rouletabille poussa son ami dans le compartiment. Il ferma la portière. Ils étaient seuls. « Il faut que tu me dises tout ce que tu sais d'Hubert. » Jean lui répondit, les sourcils froncés, l'œil mauvais. « Tu l'as vu un après-midi dans son cadre. Tu en sais aussi long que moi. Tu as vu une brute. »«
C'est sommaire, » fit Rouletabille.
« C'est comme lui, » répliqua Jean.
« Oh, pardon, » releva le reporter, « je le crois un peu plus compliqué que tu viens de le dépeindre. »
« Pour les moyens d'arriver à son but, peut-être, mais je te jure que lorsqu'on a vu ce grand garçon, à cheval, parmi les bouviers et brandissant son trident derrière les troupeaux épouvantés, on emporte non seulement de lui une image physique, on a touché encore le fond de sa psychologie. Et puis, c'est peut-être, lui aussi, un artiste dans son genre. »
Et Santierne fit entendre un rire douloureux. Rouletabille ne s'y trompa point. Il avait en face de lui un homme jaloux, jaloux à en pleurer. Et c'est tout juste, en effet, si Jean, derrière son rire, parvenait à retenir ses larmes. Car c'était un tendre, celui-là. Tout le contraire d'Hubert. Et sous son apparent snobisme, fleurissait une âme délicate et d'une sensibilité presque maladive. Riche, ayant fréquenté les hautes études politiques par désœuvrement, pratiqué tous les sports pour se plier au goût du jour, passé dans la carrière parce qu'un homme de la naissance, de l'éducation et de la grâce de Santierne se doit à lui-même d'avoir été plus ou moins attaché d'ambassade, la véritable personnalité de Jean se révélait quand il abordait la question d'art et surtout la musique, à laquelle il s'était adonné comme à un délicieux poison. C'était Mozart et Beethoven qui avaient fiancé Jean et Odette de Lavardan. Mais Santierne n'ignorait pas qu'avant qu'il connût cette charmante fleur de la Camargue, Odette avait reçu, quand elle était encore enfant, d'autres impressions qui, pour être plus rustique, n'en était peut-être pas moins redoutable. C'était Hubert qui avait appris à Odette à monter à cheval. Et quelle amazone il en avait fait!
« Comprends-moi, » disait Jean à Rouletabille. Le vieux Lavardan, dans ce temps-là, était lui aussi féru d'Hubert. Mais quand ce gentilhomme campagnard, je parle d'Hubert, qui n'avait pour toute fortune que son bastidon et son troupeau, demanda qu'on lui réservât la main d'Odette, il y a 4 ans de cela. Lavardan lui répondit « Fais d'abord fortune, et nous reparlerons de tout cela quand Odette aura l'âge. » Eh bien, aujourd'hui, Odette a l'âge. Hubert a fait fortune, mais Odette et moi, nous nous aimons. J'avais espéré un duel, mais il paraît qu'on ne se bat plus en duel. Le lâche a préféré raconter à Odette mon histoire avec Calista. C'est infâme.
La pauvre petite, exprima Rouletabille, je la plains entre Hubert et Calista.
Odette t'aime beaucoup, fit Jean en serrant la main de Rouletabille. Et moi j'ai une sincère affection pour elle, puisqu'elle sera ta femme. »
Ils se turent un instant, puis Jean, « Écoute, là-bas, moi je fais mon affaire d'Hubert. Toi, tu t'occuperas de Calista. »
« Il vaut mieux que je me charge de tout, » riposta le reporter.
Et comme Jean faisait un mouvement, « Ah, je t'en prie, tu feras exactement tout ce que je te dirai. Je t'assure que nous n'avons pas un instant à perdre et qu'à la moindre fausse manœuvre, nous sommes fichus. »
« Tout de même, » éclata Jean, « ils ne vont pas me l'assassiner. »
« Non, mais je crains que les événements ne se précipitent. » Ils se précipitèrent si bien, les événements, que nous ne pouvons mieux faire pour en établir la rapide succession
que de recopier, dans toute leur sécheresse, les notes du carnet du reporter prises dans cette nuit tragique. Carnet de Rouletabille. 11h40. Lyon. Jean agite la question de savoir s'il ne vaut pas mieux descendre là et brûler la route en auto. Gain de temps aléatoire. Je décide de nous en tenir à ma première idée. Jean devient inquiétant d'impatience et gênant. 2h50 du matin, Avignon auto. Jean conduit comme un fou. Il va nous casser la figure. J'exige qu'il me cède la place au volant. 4h du matin, château de Lavardan. Réveillons le jardinier, tout est calme. Monsieur de Lavardan et sa fille se sont couchés de bonne heure. 4h10, je laisse Jean à Lavardan et je lance l'auto sur la route des Saintes-Maries. 4h35, coup de feu sur la route, pneu arrière éclaté. Un homme surgit devant moi, une carabine à la main. Je reconnais Olajaï. Il est haletant et me regarde avec des yeux de fou. Que monsieur ne se montre pas en Camargue! Que monsieur ne quitte pas Lavardan! Et il s'enfonce dans les Tamaris. En changeant ma roue, je réfléchis à ce que vient de me dire Olajaï. Le conseil est bon. Je retourne à Lavardan. 6h. Quelques instants après être rentré au château, je trouve une foule paysanne ameutée autour du cadavre de monsieur de Lavardan, que l'on vient de découvrir au fond de son parc, près d'une porte mitoyenne communiquant avec la propriété d'Hubert. Monsieur de Lavardan a été frappé horriblement à la tempe. Je n'ai pas eu besoin d'examiner longtemps le corps pour être persuadé que l'on n'arrêtera jamais l'assassin. 7h. On arrête Hubert. Entre-temps, on a découvert que mademoiselle de Lavardan a été enlevée dans la nuit. Jean est complètement fou. « Chère petite Odette, je te sauverai. » 4. Le midi bouge et la Camargue aussi. Les quelques lignes jetées en hâte par Rouletabille sur son carnet ne faisaient que rapporter brutalement un fait tragique que la justice d'un côté et le journalisme de l'autre allaient essayer de reconstituer dans ses moindres détails. Si ce jour-là, Rouletabille avait été sobre de commentaires, c'était sans doute qu'il aurait eu trop à en faire. Prévoyait-il déjà que cette affaire, apparue tout d'abord comme un sinistre fait divers, allait prendre bientôt les proportions d'un événement d'une portée européenne? Il est certain qu'obéissant à un instinct sûr, servi par une logique coutumière, cette logique, dans son langage imagé, il l'appelait « le bon bout de la raison ». Le reporter eut tout de suite le pressentiment que sous le drame de Lavardan remuait un autre drame formidable, dont le premier pouvait bien être la clé. Voyons-le donc agir, pas à pas, depuis qu'il a été si étrangement chassé des routes de la Camargue par l'apparition fantomatique d'Olajaï. Il rentre à Lavardan. Ce n'est point à la minute précise de son arrivée que se fait la découverte du drame, mais, comme il le dit dans son carnet, quelques instants plus tard. Jean l'attendait sur le perron du vieil Castounou, le vieux château neuf, comme on disait dans le pays, pour désigner la vaste demeure de style provençal que les Lavardans s'étaient construite au commencement du siècle précédent sur la route d'Arles, au nord de la Camargue, dans une contrée pleine de fraîcheur et d'ombre, qui, au sortir de la plaine marécageuse, claire comme un étincelant miroir, surprenait comme une Normandie avec ses sentes gazonneuses, ses plaines de froment, ses arbres feuillus aux troncs puissants et moussus. Là était le toit de la bonne hospitalité. Là, le voyageur, ou le simple gardien qui allait retrouver ses troupeaux, était toujours accueilli par de bonnes paroles et un bon vin de choix, vif comme le pinson. Rouletabille vit tout de suite que Jean avait une mine des plus rassurantes. Quant à lui, encore sous le coup du singulier incident de la route, il était loin d'être aussi tranquille que son ami. Il se laissa conduire dans une petite salle où un domestique, le vieil Alary, qui servait les Lavardans depuis 30 ans, avait dressé un petit déjeuner. « Nous sommes fous, » disait Jean. « Tout repose encore dans la maison. » J'ai questionné Alary. « Hubert fait bien des extravagances, et je comprends qu'Odette se soit émue. » « Tout de même, » fit entendre Alary quand il eut fini de verser le café. « Moi, à votre place, monsieur Jean, j'aurai l'œil. Il y a des jours où ce garçon est aucun brigand dans l'Ouvrest. » Tel qu'un brigand dans la forêt. Et le vieux domestique quitta la salle, en hochant la tête et en répétant « T'aucun brigand dans l'Ouvrest !» Jean reprit quand il fut parti. « Autre chose, je sais maintenant pourquoi Calista est venue au Sainte-Marie. « Parle, mon ami, parle !» faisait Rouletabille qui pensait toujours à Olajaï. « Mais c'est très simple. Tu sais combien Calista, sous ses dehors parisiens, est restée bohémienne, avec tous les préjugés et toutes les superstitions de sa race. « Trop bohémienne, beaucoup trop, mon cher Jean, pour notre repos à tous. » « Nous ne nous comprenons pas. » « C'est-à-dire que tu ne me comprends pas, ce qui n'est pas la même chose. » « Mais écoute-moi donc, je t'en prie. Tu t'écoutes toujours, toi, et tu n'écoutes jamais personne. » « Tu t'imagines cela, Jean ? Mais moi, pour t'écouter, » fit Rouletabille, « je n'ai même pas besoin que tu parles. »« Ah, tu as bien dit cela, avec l'accent. Enfin, tu plaisantes. Nos affaires vont mieux. »« Non, elles ne vont pas mieux. »« Alors, tu me disais que Calista est superstitieuse, » reprit Jean un peu décontenancé. « Tu sais la dévotion qu'elle a pour Sainte Sarah ?»« Dame, c'est leur patronne à ces gens-là. »« Oui, mais chez Calista, tu ne sais pas jusqu'où ça allait. » »« Elle avait fait incruster une icône dans le bois de son lit, et plus d'une fois, je l'ai surprise en prière devant cette horrible petite image. » »« Après ?» Après, tu sais que tous les ans, le 24 mai, les bohémiens fêtent la Sainte Sarah ou Sainte Marie, dans la crypte de l'église qui a été élevée à l'endroit même où débarquèrent, d'après la légende, les saintes Marie et Lazare et leur suivante Sarah. Après, je t'énerve? Non, tu me fais perdre du temps avec ton cours d'histoire. Je sais tout cela aussi bien que toi. Où veux-tu en venir? À ceci. Alary vient de me dire que jamais la Camargue, à pareille époque, n'a été aussi infestée de gitanes, de zingaras, de gypsies. Il en est venu de partout, du nord et du midi, d'Italie, d'Espagne et de plus loin encore. Le bruit court dans le pays que le 24 mai, cette année, correspond à une prophétie dont toute la race attendrait de grandes choses. Cela posé, tu comprendras que pour une fanatique de Sainte Sarah comme Calista. Mais Rouletabille semblait ne plus l'écouter. Il avait repoussé sa tasse et s'en était allé rêveur à la fenêtre en bourrant sa pipe. Un merveilleux matin de Provence dorait déjà la campagne. L'auba carga sa bella auba per saluda l'udieu du jour. Un vent léger apportait la senteur des lavandes et des myrtes, mais quoique le reporter fût aussi bien que quiconque propre à goûter les joies simples que verse la nature, Rouletabille, en ce moment, ne voyait pas la campagne, ni ne paraissait apte à apprécier les parfums. Sans doute était-il occupé à s'écouter, comme disait Jean, lequel, de plus en plus tranquille, continuait son léger repas, tout en suivant son idée. Alary me disait qu'on n'avait pas vu ça depuis la fameuse année où fut sacrée la reine du sabbat. Sans se retourner, Rouletabille dit de cette voix lointaine qu'il avait quelquefois comme s'il parlait du fond d'une autre pièce, d'une pièce dans laquelle il avait le droit de pénétrer et où il semblait s'être réfugié en y traînant avec lui toute sa pensée prisonnière. « J'ai fait, il y a quelques semaines, un article à propos du procès des Romanichel, cette curieuse association de voleurs au rang des mois. Article dans lequel je parlais de la singulière destinée de cette race, et je le terminais en annonçant que le peuple de la route, en effet, n'avait pas perdu toute espérance. Et où est-il paru cet article? Comment se fait-il que je ne l'ai pas lu? Il a paru dans la revue de la Languedoc et en provençal. J'avais jugé le sujet opportun. Continua le reporter, toujours de sa voix lointaine, de sa voix de l'autre pièce. Soudain, il se retourna et revint droit à Jean. Je disais encore dans cet article que Sainte-Sara avait promis à son peuple, et cela paraît-il en termes formels, ne souris pas, qu'il retrouverait à une date prochaine son antique prospérité. Je n'ai pas du reste à te cacher que je tenais tous ces précieux détails d'Olajaï lui-même. Eh bien, mon cher, c'est pour faire ses dévotions à Sainte-Sara que Calista est venu en Camargue. Nous avons donc eu tort de nous affoler. Mon domestique aussi est venu au Sainte-Marie pour faire ses dévotions, mon cher Jean, et tu ne m'en vois pas plus tranquille pour cela. À propos de mon domestique, je viens de le rencontrer.
Olajaï?
Oui, Olajaï. Il m'a crevé un pneu d'un coup de carabine pour avoir l'occasion de me conseiller de rentrer ici au plus tôt et de ne plus quitter la Vardan.
« Qu'est-ce que cela veut dire ? »
s'exclama Jean en se levant de table. Rouletabille haussa les épaules.
« Eh ! Qu'est-ce que cela voudrait dire si cela ne signifiait point que la Vardan est menacée ?»«
Menacée de quoi ? La Vardan n'a rien à faire avec les Bohémiens. »
« Non, mais Calista a peut-être affaire avec les Lavardan. Et peut-être Olajaï en sait-il quelque chose. »
« Calista s'était donc entendu avec Olajaï ?»«
Je ne crois pas Olajaï animé de mauvaises intentions à mon égard. Cependant, certains points obscurs de sa conduite ne laissent point de m'inquiéter. Je lui ai quelque peu sauvé la vie là-bas dans les Balkans. Mais s'il n'y a pas entente, il y a peut-être pire. Il y a une coïncidence qui, de quelque côté que je me retourne, m'effraie.
« Et toi, tu m'épouvantes !» s'écria Jean. « Partons, partons vite, partons tous, en laissant loin derrière nous et les Bohémiens et Calista, et Olajaï, et ce brigand d'Hubert.
Partez donc, et le plus tôt sera le meilleur. » fit Rouletabille.
« Et toi ?»«
Moi, je reste. »